J'aime pas lire.
J'aime pas lire à lire. J'aime pas lire à lire.
Pas lire.
J'aime pas lire. J'aime pas lire. J'aime pas lire. J'aime pas lire.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon, radiocanu.org si vous êtes loin de la région lyonnaise. Vous êtes bien sur J'aime pas lire, votre programme de lecture. Ce soir, nous allons lire Kiff Kiff Demain de Face Again, une lecture assez fraîche et piquante. C'est parti, let's go. C'est lundi, et comme tous les lundis, je suis allée chez Madame Burlot. Madame Burlot, elle est vieille, elle est moche, et elle sent le parapou. Elle est inoffensive, mais quelquefois, elle m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, elle m'a sorti de son tiroir du bas une collection d'images bizarres, des grosses taches qui ressemblaient à du vomi séché. Elle m'a demandé à quoi ça me faisait penser. Je le lui ai dit, et elle m'a fixé de ses yeux globuleux en remuant la tête comme les petits chiens mécaniques à l'arrière des voitures. C'est le lycée qui m'a envoyé chez elle. Les profs, entre des grèves, se sont dit que j'avais besoin de voir quelqu'un parce qu'ils me trouvaient renfermé. Peut-être qu'ils ont raison. Je m'en fous. J'y vais. C'est remboursé par la sécu. Je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. Il est parti loin. Il est retourné au Maroc, épouser une autre femme, sûrement plus jeune et plus féconde que ma mère. Après moi, maman n'a plus réussi à avoir d'enfant. Pourtant, elle a essayé longtemps. Quand je pense qu'il y a des filles qui font pas exprès de tomber enceinte du premier coup. Papa, il voulait un fils. Pour sa fierté, son nom, l'honneur de la famille, et je suppose encore plein d'autres raisons stupides. Mais il n'a eu qu'un enfant, et c'était une fille, moi. Disons que je correspondais pas tout à fait au désir du client. Et le problème, c'est que ça se passe pas comme à Carrefour, y a pas de service après-vente. Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça servait à rien d'essayer avec ma mère, et il s'est cassé. Comme ça, sans prévenir. Tout ce dont je me souviens, c'est que je regardais un épisode de la saison 4 de X-Files, que j'avais loué au vidéoclub d'en bas de ma rue. La porte a claqué. À la fenêtre, j'ai vu un taxi gris qui s'en allait. C'est tout. Ça fait plus de 6 mois maintenant. Elle doit déjà être enceinte, la paysanne qui l'a épousée. Ensuite, je sais exactement comment ça va se passer. 7 jours après l'accouchement, ils vont célébrer le baptême et y inviter tout le village. Un orchestre de vieux tchèques avec leur tambour en peau de chameau viendra spécialement pour l'occasion. À lui, ça va lui coûter une vraie fortune. Tout l'argent de sa retraite d'ouvrier chez Renault. Et puis ils égorgeront un énorme mouton pour donner un prénom au bébé. Ce sera Mohamed, 10 contre 1. Quand Madame Burlot me demande si mon père me manque, je réponds non. Mais elle me croit pas. Elle est perspicace comme meuf. De toute façon, c'est pas grave. Ma mère est là. Enfin, elle est présente physiquement, parce que dans sa tête, elle est ailleurs, encore plus loin que mon père. Le ramadan a commencé depuis un peu plus d'une semaine. J'ai dû faire signer à maman un papier de la cantine précisant pourquoi je ne mangeais pas ce trimestre. Quand je l'ai donné au proviseur, il m'a demandé si je me foutais de sa gueule. Le proviseur, il s'appelle Monsieur Loiseau. Il est gros, il est con. Quand il ouvre la bouche, ça sent le vin de table Leader Price. Et en plus, il fume la pipe. À la fin de la journée, c'est sa grande sœur qui vient le chercher en safran rouge à la sortie du lycée. Alors quand il veut jouer le proviseur autoritaire, il est loin d'être crédible. Donc Monsieur Loiseau m'a demandé si je me foutais de sa gueule, parce qu'il a cru que le papier, je l'avais signé à la place de ma mère. Il est vraiment con. Parce que si j'avais voulu imiter une signature, j'en aurais fait une vraie. Là, maman avait juste fait une vague forme qui tremble. Elle n'a pas l'habitude de tenir un stylo entre ses doigts. Du coup, il ne s'est même pas posé la question. Il doit faire partie de ces gens qui croient que... l'illettrisme, c'est comme le sida, ça n'existe qu'en Afrique. Il n'y a pas très longtemps, maman a commencé à travailler. Elle fait le ménage dans un hôtel, Formule 1, à Bagnolet, en attendant de trouver autre chose, j'espère bientôt. Parfois, quand elle rentre tard le soir, elle pleure. Elle dit que c'est la fatigue. Pendant le ramadan, elle lutte encore plus parce qu'à l'heure de la coupure, vers 17h30, elle est encore au travail. Alors pour manger, elle est obligée de cacher des dattes dans sa blouse. Elle a carrément cousu une poche intérieure, histoire que ça fasse plus discret. Parce que si son patron la voyait, elle se ferait engueuler. Au Formule 1 de Bagnolet, tout le monde l'appelle la Fatma. On lui crie après sans arrêt, et on la surveille pour vérifier qu'elle pique rien dans les chambres. Et puis, le prénom de ma mère, c'est pas Fatma, c'est Yasmina. Ça doit bien le faire marrer, monsieur Chion. Comme d'appeler tous les Arabes Fatma, tous les Noirs Mamadou et tous les Chinois ping-pong. Tous des cons, franchement. Monsieur Chion, c'est son responsable. Il est alsacien. Parfois, je souhaite qu'il crève au fond d'une cave, bouffé par les rats. Quand je dis ça, maman m'engueule. Elle dit que c'est pas bien de souhaiter la mort, même à son pire ennemi. Un jour, il l'a insultée, et quand elle est rentrée, elle a pleuré super fort. La dernière fois que j'ai vu pleurer comme ça, c'était Myriam, quand elle s'est fait pipi dessus en classe de neige. Cet enfoiré de Monsieur Chion, il a cru que maman se moquait de lui, parce qu'avec son accent, elle prononçait son nom, Chian. Depuis que le vieux s'est cassé, on a eu droit à un défilé d'assistantes sociales à la maison. La nouvelle, je sais plus son nom. C'est un truc du genre Dubois, Dupont ou Dupré. Bref, un nom pour qu'on sache que tu viens de quelque part. Je la trouve conne et en plus, elle sourit tout le temps pour rien. Même quand c'est pas le moment. Cette meuf, on dirait qu'elle a besoin d'être heureuse à la place des autres. Une fois, elle m'a demandé si je voulais qu'on devienne amis. Mais moi, comme une crapule, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas moyen. Mais je crois que j'ai gaffé, parce que j'ai senti le regard de ma mère me transpercer. Elle devait avoir peur que la mairie ne nous aide plus si je devenais pas copine avec leur conne d'assistante. Avant Madame Dumachin, c'était un homme. Ouais, son prédécesseur, c'était un monsieur, un assistant de la mairie. Il ressemblait à Laurent Cabrol, celui qui présentait la nuit des héros sur TF1 le vendredi soir. C'est dommage que ce soit fini. Maintenant, Laurent Cabrol, il est en bas, à droite de la page 30 du TV Mag, en tout petit, habillé en polo à rayures jaunes et noires, en train de faire une pub pour les chauffages thermiques. Donc, l'assistant social, c'était son sosie. Tout le contraire de Madame Dutruc. Il plaisantait jamais, il souriait jamais, et il s'habillait comme le professeur Tournesol dans Les Aventures de Tintin. Une fois, il a dit à ma mère qu'en 10 ans de métier, c'était la première fois qu'il voyait des gens comme nous avec un enfant seulement par famille. Il ne l'a pas dit, mais il devait penser arabe. Quand il venait à la maison, ça lui faisait exotique. Il regardait bizarre les bibelots qui sont posés sur le meuble, ceux que ma mère a rapportés du Maroc après son mariage. Et puis, comme on marche en babouche à la maison, quand il entrait dans l'appartement, il enlevait ses chaussures pour faire bien. Sauf que lui, il avait des pieds bioniques. Son deuxième doigt était au moins 10 fois plus long que le gros orteil. On dirait qu'il faisait des doigts d'honneur à l'intérieur de ses chaussettes. Puis il y avait l'odeur. Il jouait le type compatissant, mais c'était un mytho, rien du tout. Il n'en avait rien à foutre de nous. D'ailleurs, il a arrêté le travail d'assistant social. Il s'est installé à la campagne, à ce qu'il paraît. Si ça se trouve, il s'est reconverti en maître fromager. Il passe avec sa camionnette bleu ciel dans les petits villages de la bonne vieille France, le dimanche après la messe, et vend du pain de seigle, du roquefort tradition et du saucisson sec. Madame du quelque chose, même si je la trouve conne, elle joue mieux son rôle d'assistante sociale de quartier qui aide les pauvres. Elle fait vraiment bien semblant d'en avoir quelque chose à cirer de nos vies. Parfois, on y croirait presque. Elle me pose des questions avec sa voix aiguë. L'autre jour, elle voulait savoir ce que j'avais lu comme livre dernièrement. Je lui ai juste fait un mouvement d'épaule pour qu'elle comprenne rien. En vrai, je viens de finir un bouquin de Tahar Ben Jelloun, qui s'appelle « L'enfant de sable ». Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a été élevée comme un petit garçon, parce que c'était déjà la 8e de la famille, et que le père voulait un fils. En plus, à l'époque où ça se passait, il n'y avait ni échographie, ni contraception. C'était ni repris, ni échangé. Quel destin de merde. Le destin, c'est la misère parce que t'y peux rien. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu feras toujours tout couiller. Ma mère, elle dit que si mon père nous a abandonnés, c'est parce que c'était écrit. Chez nous, on appelle ça le mektoub. C'est comme le scénario d'un film dont on est les acteurs. Le problème, c'est que notre scénariste à nous, il a aucun talent. Il sait pas raconter de belles histoires. Ma mère, elle s'imaginait que la France, c'était comme dans les films en noir et blanc des années 60. Ceux avec l'acteur beau gosse qui raconte toujours un tas de trucs mythos à sa meuf, une cigarette au coin du bec. Avec sa cousine Bouchra, elles avaient réussi à capter les chaînes françaises grâce à une antenne expérimentale, fabriquée avec une couscoussière en inox. Alors quand elle est arrivée avec mon père à Livry-Gargan, en février 1984, elle a cru qu'ils avaient pris le mauvais bateau et qu'ils s'étaient trompés de pays. Elle m'a dit que la première chose qu'elle avait faite en arrivant dans ce minuscule F2, c'était de vomir. Je me demande si c'était les effets du mal de mer ou un présage de son avenir dans ce bled. La dernière fois que nous sommes retournés au Maroc, j'étais égarée. Je me souviens des vieilles tatouées qui venaient s'asseoir à côté de maman pendant les mariages, baptêmes ou circoncisions. Tu sais Yasmina, ta fille devient une femme. Il faudrait que tu penses à lui trouver un garçon de bonne famille. Tu connais Rachid, le jeune homme qui fait de la soudure. Bande de vieilles connes, moi je le connais celui-là. Tout le monde l'appelle Rachid l'âne batté. Même les petits de 6 ans le mettent à l'amende et se foutent de sa gueule. En plus, il lui manque 4 dents, il sait même pas lire. Il louche et il sent la pisse. Là-bas, il suffit que tu aies 2 petites excroissances sur la poitrine en guise de sein, que tu saches te taire quand on te le demande, faire cuire du pain et c'est bon, t'es bonne à marier. Maintenant, de toute façon, je crois qu'on ne retournera plus jamais au Maroc. Déjà, on n'a plus les moyens et ma mère dit que ce serait une trop grande humiliation pour elle. On la montrerait du doigt. Elle croit que c'est de sa faute ce qui est arrivé. Pour moi, il y a 2 responsables dans cette histoire. Mon père et le destin. L'avenir, ça nous inquiète, mais ça devrait pas. Parce que si ça se trouve, on n'en a même pas. On peut mourir dans 10 jours, demain ou tout à l'heure, là, juste après. C'est le genre de truc qui prévient pas. Il n'y a ni préavis, ni relance. Pas comme pour la facture EDF en retard. C'est comme mon voisin, Monsieur Rodriguez, mon voisin du 12e étage, celui qui a fait la guerre en vrai. Il est mort il n'y a pas longtemps. Bon, ok, il était vieux. Mais quand même, on s'y attendait pas. J'y pense à la mort, des fois. Ça m'arrive même d'en rêver. Une nuit, j'assistais à mon enterrement. Il n'y avait presque personne. Juste ma mère, Madame Burlo, Carla, la portugaise qui nettoie les ascenseurs de la tour, Leonardo DiCaprio de Titanic, et ma copine Sarah qui a déménagé à Trappes quand j'avais 12 ans. Mon père, il n'était pas là. Il devait s'occuper de sa paysanne enceinte de son futur Momo, pendant que moi, eh ben j'étais morte. C'est dégueulasse. Son fils, je suis sûr qu'il sera bête, encore plus bête que Rachid le soudeur. J'espère même qu'il va boiter, qu'il aura des problèmes de vue et qu'à la puberté, il aura plein d'acné. En plus, dans leur bled paumé, il n'y aura pas moyen d'avoir du Biactol ou de l'eau précieuse pour soigner ses boutons. Sauf peut-être au marché noir, s'il se débrouille bien. De toute façon, ce sera un raté, c'est sûr. Dans cette famille, la connerie, ça se transmet de père en fils. À 16 ans, il vendra des pommes de terre et des navets sur le marché. Et sur le chemin du retour, sur son âne noir, il se dira « Je suis un type glamour ». Plus tard, moi, je voudrais travailler dans un truc glamour. Mais je sais pas où exactement. Le problème, c'est qu'en cours, je suis nulle. Je touche la moyenne juste en art plastique. C'est déjà ça. Mais je crois que pour mon avenir, coller des feuilles mortes sur du papier canson, ça va pas trop m'aider. En tout cas, j'ai pas envie de me retrouver derrière la caisse d'un fast-food, obligé de sourire tout le temps en demandant aux clients « Quelle boisson ? Menu normal ou maxi ? Sur place ou avorté ? Ou à emporter ? Pour ou contre l'avortement ?» Et de me faire engueuler par mon responsable si je mets trop de frites à un client parce qu'il m'aurait souri. C'est vrai, ça aurait pu être l'homme de ma vie, celui-là. J'aurais fait une réduction sur mon menu, sur son menu. Il m'aurait emmené à Hippopotamus, m'aurait demandé en mariage, et on aurait vécu heureux dans son sublime F5.
Au lieu de boire ta bière, croise à mon formulaire et mes sévères dans tes cellulaires. Pas d'efficacité sans unité, formons notre société
dans la société.
Au lieu de ça, toi tu t'exposes, ouais. Et comme une bombe, la vie t'explose. Ose me dire qu'aujourd'hui t'as pas compris, j'augmente la dose dans mes lyrics, dans mon entourage. Y'a des traites, des lances, pas des gens comme ça qui dès leur plus jeune âge s'exercent à des missions de sabotage. Reste à chacun de faire sa part de nettoyage. Je persiste, suis la piste de l'afro, le pénis fils par trop simpliste et défaitiste. Agrandis la liste,
miss
des choses qui m'attristent. Consulte tes archives, sois réaliste. Atterri, le pacifiste légendaire Martin King Luther a fait de beaux rêves. Mais moi comme Descartes je préfère rester terre à terre, rien ne sert. Oublier que l'on vit dans la misère, celle qui pèse dans le regard de nos pères, qui ressemble à celle des fonctionnaires, qui se dispense lâcher du cash au sans-emploi, pensant qu'ils se brûleraient les doigts. C'est vrai que moi-même je ne donne pas
à certains,
nourris au sein de mes cacolas.
Certains,
je n'ai pas de temps à perdre,
tant de choses à faire
avec mes frères qui sans cesse m'exaspèrent.
Fais tourner la circulaire, frère fier,
reste intègre si tu veux faire partie de ma paix.
Remplis ce formulaire,
fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère.
Fais tourner la circulaire,
frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix.
Remplis ce formulaire,
fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Mais où étions-nous pour ces 47 Zaïrois rapatriés et de surcroît
ligotés,
ramenés à l'état d'animal sans aucun droit? Moi qui voyais la France comme terre des droits,
des droits de l'homme,
on nous les gomme, on nous sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. On démolit des tours de béton,
crée de nouvelles associations.
Les médias font de brèves apparitions dans notre monde. Rares sont les noirs et arabes admis en classe de seconde.
Garçons,
tous ne sont qu'une nouvelle forme de compassion. Cela ne changera en rien notre condition. La détermination qui m'anime avive ma passion. L'insoumission à laquelle j'appelle ma nation est la première forme de mes agressions. Et au diable d'intégration, mon rêve se réalisera-t-il de nous voir tous unis en force aux portes de la mairie? Oublie le boycott politique, opte pour le vote aussi efficace qu'un passing shot. Libère-toi de toutes ces formes de menottes. Écoute à mon antidote,
ouais.
Fais tourner, fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix.
Remplis ce formulaire,
fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix.
Remplis ce formulaire,
fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Si tu veux faire partie de ma peine, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Ça soit y'a et composite, first 6, 9, 7. Fais tourner fils, coopère et adhère. Fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Coopère.
De retour à la lecture, en studio, de Radio Canus, en 2.2 FM, dans votre émission de lecture J'aime pas lire, Let's go, c'est reparti. Face Again, Kiff Kiff Demain. Un roman qui est paru en 2004. On y retourne. On a reçu des coupons de la CAF. Ça tombe bien. Je serais pas obligée d'aller au secours populaire du centre-ville. C'est trop l'affiche. Une fois avec ma mère, on a croisé Nacera, la sorcière, à côté de l'entrée. C'est une dame qu'on connaît depuis longtemps. Maman lui emprunte de l'argent quand on est vraiment en galère. Je la déteste. Elle se souvient qu'on lui doit du flousque dans les moments où il y a grave du monde. Tout ça pour foutre la honte à ma mère. Donc on croise Nacera, la sorcière, à l'entrée du secours populaire. Maman était très mal à l'aise, mais l'autre, elle avait l'air ravie. « Alors Yasmina, tu viens au secours populaire pour récupérer ?»« Oui, moi je viens pour donner. »« Dieu te le rendra. » »« J'espère que Dieu lui rendra rien du tout à part sa méchanceté de vieille laide. » Finalement, on est rentré à la maison sans rien récupérer, parce que maman voulait pas choisir des vêtements de la sorcière sans le faire exprès. Ça lui donnera encore une raison d'ouvrir sa grande bouche, genre « Mais c'est ma jupe que tu portes !» J'étais fier de ma mère. C'est ça la dignité. Le genre de truc qu'on t'apprend pas à l'école. En parlant d'école, j'ai un devoir à rendre en éducation civique sur la notion de respect. C'est Monsieur Werber qui nous l'a demandé. Ce prof, il est gentil, mais j'aime pas trop qu'il me parle, car j'ai l'impression de lui faire pitié, et j'aime pas ça. C'est comme au secours populaire, avec maman. Quand la vieille à qui on demande un sac en plastique pour mettre des pulls qu'on a choisis nous regarde avec ses yeux mouillés. À chaque fois, on a envie de lui rendre ses pulls et de se tirer. Monsieur Werber, c'est pareil. Il se la joue prophète social. Il me dit que si j'ai besoin, je peux prendre rendez-vous avec lui. Tout ça pour se donner bonne conscience et raconter à ses potes dans un bar parisien branché comme c'est difficile d'enseigner en banlieue. Burk. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la notion de respect ? De toute façon, les profs, ils s'en foutent des devoirs. Je suis sûr qu'ils les lisent pas. Ils te mettent une note au pif, rangent les copies et vont se réinstaller sur le canapé en cuir entre leurs deux gosses, Pamela, 10 ans, qui joue à Barbie lave-vaisselle, et Brandon, 12 ans, en train de manger ses crottes de nez. Sans oublier Marie-Hélène, qui vient de commander le repas chez le traiteur parce qu'elle avait la flemme de préparer le dîner, et qui lit un article sur l'épilation à la cire dans Femme Actuelle. Voilà, ça, c'est irrespectueux par exemple. L'épilation à la cire, ça fait mal. Et faire mal, c'est manquer de respect. De toute façon, je veux arrêter. J'en ai marre de l'école. Je me fais chier et je parle avec personne. En tout, il n'y a que deux personnes à qui je peux parler pour de vrai. Madame Burlot et Amoudi, un des grands de la cité. Il doit avoir environ 28 ans. Il traîne toute la journée dans les halls du quartier et comme il me dit souvent, il m'a connu alors que j'étais pas plus haute qu'une barrette de shit. Amoudi, il passe son temps à fumer des pétards. Il est tout le temps déconnecté et je crois que c'est pour ça que je l'aime bien. Tous les deux, on n'aime pas notre réalité. Parfois, quand je reviens des courses, il m'arrête dans le hall pour discuter. Il me dit « juste 5 minutes » et on reste une heure ou deux à parler. Enfin, surtout lui. Souvent, il me récite des poèmes d'Arthur Rimbaud. Du moins, le peu qu'il se rappelle, parce que le shit, ça te bouffe la mémoire. Mais quand il me l'a dit, avec son accent et sa gestuelle de racaille, même si je comprends pas grand-chose au texte, je trouve ça beau. C'est trop dommage qu'il ait pas continué l'école. C'est à cause de la prison. Il m'a raconté qu'il s'était fait embarquer dans une histoire, par des potes. Mais il veut pas me dire quoi. C'est pas de ton âge. Quand il est ressorti, il a tout lâché alors qu'il était loin dans ses études. Au moins jusqu'au bac. Alors quand je vois les policiers qui fouillent Amoudi près du hall, quand je les entends le traiter de petit con, de déchet, je me dis que ces types, ils connaissent rien à la poésie. Si Amoudi était un peu plus vieux, j'aurais bien aimé que ce soit mon père. Quand il a appris ce qui nous est arrivé, il m'a parlé longtemps. En roulant un énième joint, il m'a dit « La famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré ». Il sait de quoi il parle. Il a 8 frères et sœurs et ils sont presque tous mariés. Mais Amoudi, il dit qu'il s'en fout du mariage, que ça sert à rien, que c'est une contrainte de plus, comme si on n'en avait déjà pas assez comme ça. Il a raison. Sauf que moi, j'ai plus de famille, on n'est plus qu'une demi-famille maintenant. Comme je m'ennuyais, j'ai décidé de prendre le métro. Je ne savais pas où aller, mais je trouve ça distrayant, le métro. On voit plein de têtes, c'est marrant. J'ai fait toute la ligne 5, terminus à terminus. Vers les premières stations, il y a un Roumain avec une vieille veste en faux cuir et un chapeau gris qui est monté. Il avait un vieil accordéon tout pourri, avec de la poussière sur les touches qu'il n'utilise jamais. Il jouait de vieux morceaux comme ceux qu'on entend dans certains films français ou dans les documentaires chiants qui passent tard le soir à la télé. C'était marrant parce qu'il a bien animé le trajet. Même les vieux les plus coincés du wagon, je les voyais taper du pied discretos. En plus, le manouche avec sa tête, il suivait chacun des mouvements de son instrument et souriait de toutes ses dents, du moins celles qui lui restaient. Sa tête ressemblait à celle d'un cartoon, un peu comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles. J'imaginais qu'il habitait dans une caravane, qu'il était un descendant d'une grande dynastie de nomades ayant parcouru des pays et des pays, qu'il était installé dans un camp improvisé sur un terrain vague autour de Paris, qu'il avait une jolie femme prénommée Lucia, comme la mozzarella, avec de longs cheveux noirs qui lui descendent dans le dos en faisant de superbes boucles. Tous les deux, ils se seraient mariés sur une grande plage de la côte espagnole, autour d'un feu immense dont les grandes flammes rouges dansaient au milieu de la nuit. C'est comme ça que ça avait dû se passer. À chaque fois, il changeait de wagon, je le suivais pour profiter de sa poésie d'accordéon. Mais à la fin, j'ai eu la honte. Il est venu vers moi, en me tendant son gobelet en carton quick rempli de centimes. Ben moi, j'avais rien à lui donner. Alors j'ai vraiment fait un sale truc. Ce que les crevards qui veulent pas donner font d'habitude. Dès que le bonhomme est arrivé vers moi, j'ai tourné ma tête de l'autre côté, genre, je regarde ce qui se passe sur le quai d'en face. Et comme par hasard, il ne se passait rien sur le quai d'en face. Si je gagne la super cagnotte de mercredi, je lui offrirai une superbe caravane toute équipée. Ce sera la plus belle du campement. Elle ressemblera à celle qu'on pouvait gagner à la grande vitrine du dimanche au juste prix. Ensuite, je m'achèterai de nouvelles moufles pour l'hiver, pas trouées, parce que dans les miennes, il y a de l'air froid qui rentre. À la moufle gauche, il y a un trou majeur. Je me dis qu'un jour, ça va m'attirer des ennuis. Et puis j'emmènerai maman chez la manucure, parce que la dernière fois, elles en parlaient avec madame Dutruc, l'assistante sociale de la mairie, et ma mère, elle savait pas ce que c'était. Elle se regardait les ongles qui étaient très abîmés à cause des produits d'entretien made in Tchernobyl, et elle les comparait avec les ongles de madame Dumachin. L'autre bouffonne, elle frimait parce qu'elle avait des ongles super propres, super limés, super vernis. Elle se grattait même le coin de l'œil avec l'auriculaire, la bouche un peu ouverte, comme les filles qui se mettent du mascara à la télé. Juste pour flamber, pour faire voir ses ongles parfaits à ma mère, qui savait pas ce que c'était qu'une manucure. J'avais envie de les lui arracher un par un. Bref, en sortant du métro, je suis passé devant deux Pakistanais qui vendaient des marrons chauds et des cacahuètes grillées. Ils n'arrêtaient pas de répéter la même phrase. « Marrons chauds et cacahuètes grillées pour réchauffer !» Ils le disaient en chœur et en musique, avec l'accent pakistanais. La phrase, elle a fini par s'imprimer dans mon cerveau, et le soir, en rentrant, je la chantais pendant que je faisais cuire du riz pour maman. Vendredi, maman et moi, on est invités chez Tante Zora pour manger son couscous. On a pris le train tôt le matin pour passer toute la journée chez elle. Ça faisait bien longtemps qu'on nous avait pas invités quelque part. Tante Zora, c'est pas ma vraie tante, mais comme elle connaît maman depuis très longtemps, je l'appelle comme ça par habitude. Avant, elles allaient à la couture ensemble. Ensuite, Tante Zora a déménagé à Mantes-la-Jolie. Ma mère m'a expliqué qu'elle s'était inscrite au cours de couture parce qu'il n'y avait pratiquement que des maghrébines et que ces réunions de femmes le mercredi après-midi, autour de leur machine à coups de singère des années 80, ça lui rappelait un peu le bled. Tante Zora, elle a de grands yeux verts et elle rit tout le temps. C'est une Algérienne de l'Ouest, de la région de Tlemcen. En plus, elle a une histoire marrante, parce qu'elle est née le 5 juillet 1962, le jour de l'indépendance de l'Algérie. Dans son village, elle était l'enfant symbole de la liberté pendant des années. C'était le bébé porte-bonheur et c'est pour ça qu'on l'a appelée Zora, ça veut dire chance en arabe. Je l'aime beaucoup parce que c'est une vraie femme, une femme forte. Son mari, il est retraité des travaux publics et il a épousé une deuxième femme là-bas au pays. Alors il reste 6 mois là-bas et 6 mois en France. C'est une mode ou quoi ? Tous, ils décident de se refaire une vie à l'âge de la retraite et d'épouser une femme plus fraîche. La différence, c'est que le mari de Tante Zora, il a su tempérer. Il fait du mi-temps. Elle, on dirait que ça la dérange pas de voir son mari 6 mois sur 12. Elle dit qu'elle est tranquille sans lui, qu'elle peut s'amuser. Puis elle a dit à maman en riant qu'un homme de cet âge-là, ça ne lui sert plus à rien. J'ai pas trop bien compris au début. Ensuite, j'ai imaginé. Je suis restée un peu avec les fils de Tante Zora, Reda, Hamza et Youssef. Ils ont passé presque tout leur temps à jouer à la console. C'était des jeux comme on voit dans les reportages sur les enfants et la violence. Le principe, c'était de faire des records de vitesse en voiture en renversant le maximum de piétons possible. T'avais des bonus de points si c'était des enfants ou des vieilles dames. Les garçons, je les connais depuis toute petite, mais je parle plus beaucoup maintenant. Alors c'était un peu tendu. On savait pas trop quoi se dire. Ils se sont même foutus de ma gueule à cause de ça. Ils me comparaient à Bernardo dans Zorro, le petit qui avait trop l'air con et qui faisait deviner les dangers à Zorro par un système de signes. Il était muet, le pauvre type. Un moment, j'ai entendu des bouts de conversation entre maman et Tante Zora sur mon père. Maman lui disait qu'il n'ira pas au paradis pour ce qu'il a fait à sa fille. À mon avis, il n'ira pas non plus pour ce qu'il a fait à maman. Le videur du paradis, il ne le laissera pas entrer. Il va le dégager direct. Puis ça m'énerve qu'on reparle encore de lui. Il n'est plus là maintenant. On n'a qu'à l'oublier, c'est tout. Ce qui fait la particularité du couscous de Tante Zora, ce sont le pois chiche et la manière très délicate avec laquelle elle traite sa semoule. Elle m'amuse beaucoup, Tante Zora. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en France et elle parle toujours comme si ça faisait une semaine qu'elle avait débarqué à Orly. Une fois, il y a longtemps, elle expliquait à maman qu'elle a inscrit Hamza au gigot. Maman, sur le coup, elle n'a rien compris. Et quelques jours plus tard, à la maison, elle se met à rigoler toute seule. Elle a compris que Tante Zora voulait dire qu'elle avait inscrit Hamza au judo. Même ses fils se moquent d'elle. Ils disent qu'elle fait des remixes de la langue de Molière. Ils l'appellent DJ Zozo. À la fin de la journée, Youssef nous a ramenés en voiture. Il a mis du rap et personne n'a dit un seul mot de tout le trajet. Je voyais que maman était pensive. Elle avait la tête tournée vers la vitre. Elle regardait dans le vide. Quand on s'arrêtait, elle observait le feu rouge sans détacher les yeux. Elle devait encore avoir la tête ailleurs. Youssef, il conduit vite, il est grand et il est très beau. Quand on était petit, on était dans la même école primaire. Il me défendait tout le temps parce que je n'avais pas de frère et que lui, c'était un grand CM2. Je me souviens qu'on avait fait ensemble l'opération « Un grain de riz pour sauver une vie » quand il y a eu la famine en Somalie dans les années 90. Il m'avait fait croire que c'était le slogan, que c'était vrai le slogan, que pour chaque grain de riz qu'on envoyait là-bas, on sauvait vraiment une vie. Alors avec le sachet de riz de 500 grammes que maman m'avait acheté à Casino, j'étais trop fier d'avoir sauvé autant de vies. C'était limite si j'avais pas eu envie de compter chaque grain du paquet pour être bien sûr que grâce à moi, il y a plein de Somaliens qui allaient pas mourir de faim. Je me prenais pour Wonder Woman. Mais c'était faux son histoire. J'en veux toujours d'ailleurs à ce con. À ce propos, je n'ai jamais su si mon sachet de riz était bien arrivé à destination. Arrivé en bas de notre immeuble, maman a remercié Youssef et puis il est reparti. Le gardien de nos immeubles, il s'en fout de l'état des tours, on dirait. Heureusement que des fois, car là, la femme de ménage portugaise nettoie un peu. Mais quand elle vient pas, ça reste bien dégueulasse pendant des semaines, comme là, ces derniers temps. Dans l'ascenseur, il y avait de la pisse et des molars. Ça sentait mauvais, mais on était quand même contente que ça marche. Heureusement qu'on connaît l'emplacement des boutons par rapport aux étages, parce que la plaquette est grattée et ça a fondu. On a dû les brûler au briquet. Le gardien, à ce qui paraît, il est raciste. C'est Hamoudi qui me l'a dit. Moi, j'en sais rien. Je ne lui ai jamais parlé. Il me fait un peu peur. Il a tout le temps les sourcils froncés. Ça lui fait 2 traits au milieu du front, comme un 11. Amoudi, il me disait qu'avant d'être gardien de nos blocs, dans le temps, il a fait la guerre dans le pays de Tanzora, en Algérie. C'est peut-être à cause de ça qu'il n'a pas de lobe d'oreille et qu'il lui manque un pouce à la main gauche. Pour lui, la guerre, elle ne doit pas être encore tout à fait terminée. Et je crois que c'est aussi le cas de plein d'autres gens dans ce pays.
Un rêve voulant marquer la fin de la trêve. Ce sera des chopes pleines de peste. Plus elles seront lourdes et plus je serai à l'aise. Si Dieu reconnaîtra les siens, alors je reconnaîtrai les miens. J'attendrai pas le jugement dernier juste pour savoir qui sera le premier à me jeter la pierre. Je suis pas apôtre mais je pense aux autres. Pour que le bien et le mal soient plus de pair comme deux compères sans se passer l'un de l'autre. L'extrême attire en son contraire dans tous les choix que tu optes. Je garderai une santé de fer car j'ai payé la dot pour marier un jour la mort. Le jour où je suis né, je consume la vie d'un bout à bout au corps à corps d'instinct basique et inné. J'ai les poches vides et la tête pleine du talent et des tripes et je pourrais même souffrir même si ça n'en vaut pas la peine car je mène libre de mes choix et contrôle mon rôle sans savoir si je me plante pas. J'y vais à grands pas et m'endors pas, reste serein. Mon bon sang, j'ai fait un rêve pas malsain où la réalité en vérité était un tocard.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber ici entouré de ça qui comme ça voudrait te voir fini. J'aurais kiffé autre chose, créer un autre paysage. Pas comme en France, la confiance se donne selon les visages. J'ai pas voulu ça mais on me l'a donné. On m'a dit ferme ta gueule, France qu'on donne. Depuis la galère j'y suis abonné. Qui ferait cette vie, cette zermie, c'est pas permis. Tu fais confiance à tes topos, t'as tout dit à tes ennemis. J'approche à personne ce qui m'est arrivé. Mais à dire vrai, si je pouvais changer de vie, ça c'est sûr je la quitterais. On dit de reconnaître les miens, je reconnais son père. Tout seul j'opère, c'est comme ça depuis que je suis chez les frères. Je sais plus trop de ce que je rêvais quand j'étais petit, mais c'était sûrement pas ça. Tout seul face à la road cravate, mais y'a pas de ça. Pour mon futur je veux plus, pour ça faut pas que je suis. Ouais, je suis le genre de gus. Rien et qui veut tout. Il faut de la maille. La maille pour le raclot. Tu voudrais pas quand même que je finisse charclot.
J'avais rêvé d'autre chose.
J'avais rêvé
d'une parfaite cosmos. J'avais rêvé d'autre
chose.
J'avais rêvé
d'une place. Et qui s'allait s'essouffler.
J'avais rêvé d'autre chose.
J'avais rêvé
d'une parfaite cosmos. J'avais rêvé d'autre
chose. J'avais rêvé
d'une place. Et qui s'allait
s'essouffler.
En sursaut cette nuit, je pouvais plus dormir. J'imaginais déjà le pire, j'aurais voulu lire dans l'avenir, t'annoncer, te prédire, te lâcher un sourire. Mais rien que le fait de trop y penser, je n'arrive plus à rire. Prends mon stylo pour écrire, touche par l'impact de mes tirs. Pour te dire que le rêve américain est celui qui te dicte. Si tu niques le cauchemar prémonitoire et dans les ticards à tes périls et risques, on t'aura assez averti sur les disques. Même s'ils disent que par la violence tu réussis, je reste réaliste. En bas de chez moi c'est la haine qui persiste. Et j'insiste sur ces rimes quand seul le crime. C'est le prix à payer dans la réalité. Y'a pas de l'oreille, marche ou recrée. Entre le bon ou le trait, l'abstrait ou le concret dont j'extrais l'expérience pour être auprès de l'idée que je me faisais. Un monde sans pitié où règne sans fin de vie, c'est le mauvais.
Tu vises comme si l'on pleuvait. Avant que je casse, tout gonfle, je trace, me casse. M'arrache en Ardèche, je vois la boule comme un babacoule. À la coule pour ne pas finir ma boule. Boule, j'arrête, mon zoule et ma poule. Fini par terre quand tous tes rêves et tes espoirs s'écroulent. Ça saoule, faut que je blesse, faut que quelqu'un passe à la caisse un boule. Prenez par la rage qui déborde des coules. Tu sais ce qui en découle. Je lâche pas de cam, regarde comme elle s'écoule. Ennemi public sans cagoule. Qui voit Babylone qui s'écroule. Là tu le vois débouler. On sait trop fait rouler ton nom sur le micro. Je me défoule car maintenant je suis saoulé. Donc l'addition sera salée. Non, jamais ça ne va aller. Moi m'en parler non, mais y'en a beaucoup qui voudraient en parler. Parmi mille et balles craintes qu'on fait que vêtement mon rêve s'en est allé. Pour faire place au cauchemar. Mais franchement je m'en ai devenu gauche car rare illusoire sur des moments où on se marre. Trop de chance dans couille pour le joueur. Maintenant c'est bien trop.
J'avais
rêvé d'une parfaite osmose. J'avais rêvé d'autre chose.
J'avais rêvé
d'une place. Et qui s'allait
s'en souvenir.
J'avais rêvé
d'autre chose.
D'une parfaite osmose. J'avais rêvé d'autre
chose. J'avais
rêvé d'une place. Et qui s'allait
s'en souvenir. J'avais
rêvé d'autre chose.
J'avais rêvé
d'autre chose. D'une parfaite osmose.
Madame Burlot vient de me proposer un truc chelou. Un séjour au sport d'hiver organisé par la municipalité. Elle a insisté en disant que ce serait très bénéfique pour moi. Que j'allais rencontrer du monde, me couper un peu du quartier. Ça devait peut-être m'aider à m'ouvrir aux autres. Je veux pas y aller, parce que j'ai pas envie d'abandonner ma mère. même si c'est rien qu'une semaine. Et puis les séjours en groupe avec des gens que j'ai même pas choisis, hors de question. Rien que le voyage, même pas en rêve. 8 heures dans un car qui pue le vomi, où on chante des chansons des années 80 et où on fait des pauses pipi toutes les demi-heures, laisse tomber. Au début, Madame Burlot, elle croyait que c'était à cause des sous que je voulais pas y aller. Tu sais comment ça se passe? On en a déjà discuté ensemble. Ça va rien coûter à ta mère, si c'est ça qui te préoccupe. De toute façon, le ski, ça pue la merde. C'est comme si tu faisais du toboggan debout avec un bonnet et une combinaison boudinante et fluo. Je le sais, j'ai déjà regardé des compétitions de ski à la télé. Madame Burlot, je suis sûre qu'elle y va tous les hivers au ski, mais qu'elle fait jamais de ski. Juste, elle flambe sur les terrasses avec un chocolat chaud, son bonnet rose à pompons et son mari à côté qui prend des photos avec un appareil jetable. Est-ce qu'elle en a un de mari déjà? Je ne m'étais jamais posé la question. C'est ça qui est relou avec les psychologues, psychiatres, psychanalystes et tout ce qui commence par psy. Ils veulent que tu leur racontes toute ta vie et eux, ils te disent rien. Madame Burlot, elle sait des choses sur moi que moi-même je sais pas. Après ça, t'as plus envie de leur parler, c'est de l'arnaque. Notre assistante sociale de la mairie, par contre, elle se fait pas prier pour raconter sa vie. J'ai appris par maman qu'elle allait se marier. Je me demande pourquoi elle a eu besoin de lui raconter ça. Nous, on s'en claque qu'elle se marie. C'est bon, elle a de la chance, on l'a compris, pas la peine d'en faire tout un cake. D'un autre côté, ça lui donnera une raison pour sourire tout le temps, ça m'énervera moins. Et ben voilà, si ça se trouve, je dis ça par jalousie. Quand j'étais petite, je coupais les cheveux des Barbies, parce qu'elles étaient blondes, et je leur coupais aussi les seins, parce que j'en avais pas. En plus, c'était pas de vraies Barbies. C'était des poupées de pauvres que ma mère m'achetait à Gigastore. Des poupées toutes nazes. Tu jouais avec deux jours, elles devenaient mutilées de guerre. Même leur prénom, c'était de la merde. Françoise. C'est pas un prénom pour faire rêver les petites filles, ça. Françoise, c'est la poupée des petites filles qui rêvent pas. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'épouser le type qui ferait passer tous les autres pour des gros nazes. Les mecs normaux, ceux qui mettent 2 mois à monter une étagère en kit, ou à faire un puzzle 25 pièces marqué « dès 5 ans » sur la boîte, j'en voulais pas. Je me voyais plutôt avec MacGyver, un type qui peut te déboucher les chiottes avec une canette de coca, réparer la télé avec un stylo bic et te faire un brushing rien qu'avec son souffle. Un vrai couteau suisse humain. J'imagine un super mariage, une cérémonie de ouf, une robe blanche avec plein de dentelles partout, un beau voile et une longue traîne d'au moins 15 mètres. Mon témoin, ce serait Amoudi et les demoiselles d'honneur, les 3 petites sœurs ivoiriennes qui jouent à la corde à sauter en bas de l'immeuble. Le problème, c'est que celui qui doit me conduire à l'hôtel, c'est censé être mon connard de paternel. Mais comme il ne sera pas là, on sera obligé de tout annuler. Les invités reprendront tous leurs cadeaux de mariage et piqueront dans le buffet pour apporter chez eux. Rien à foutre. De toute façon, avant de poster mariage, faut d'abord trouver le mari. La chance de notre génération, c'est qu'on peut choisir qui on va aimer toute sa vie, ou toute l'année, ça dépend des couples. Dans Zone Interdite, Bernard de la Villardière parlait du problème du divorce. Il expliquait comment ça augmentait à fond. La seule raison que je vois à ce phénomène, c'est les feux de l'amour. Dans le feuilleton, ils se sont tous mariés entre eux au moins une fois, si ce n'est deux. C'est des histoires de ouf. Et ma mère, elle suit leurs embrouilles depuis 1989. Les daronnes de la cité, elles sont toutes à fond dedans. Elles se retrouvent au square pour se raconter les épisodes que certaines ont loupés. Pire que l'époque honteuse des boys bands, dont on était toutes fanatiques. Je me rappelle qu'une copine m'avait donné un poster de Philippe des Toubisseries qu'elle avait découpé dans un magazine. Toute contente, je l'avais accroché sur le mur de ma chambre. Sur la photo, Philippe, il était trop beau. Il avait les dents ultra blanches, limite transparentes. Et il était torse nu avec des plaquettes, avec des tablettes de chocolat de dessin animé. Le soir, mon père est entré dans ma chambre. Il s'est mis dans tous ses états et a commencé à arracher le poster en criant « Je veux pas de ça chez moi, il y a le chétan dedans, c'est Satan !» Mais pas comme ça que je l'imaginais le diable, mais bon. Sur le mur vide, il restait juste un tout petit morceau de poster avec le téton gauche de Philippe. Du côté du lycée, le trimestre s'est achevé aussi mal qu'il avait commencé. Heureusement que ma mère ne sait pas lire. Enfin, je dis ça surtout par rapport au bulletin. S'il y a bien un truc qui m'énerve, ce sont les profs qui font un concours d'originalité pour les appréciations. Résultat, elles sont tout aussi connes les unes que les autres. La pire que j'ai jamais eue, c'est Nadine Benbarchiche, la prof de physique chimie qui l'a écrite. Affligeant, désespérant, élève qui incite à la démission ou au suicide. Elle pensait certainement faire de l'humour, j'avoue, là, elle a fait fort. C'est vrai, je suis nul, mais bon, faut pas exagérer. De toute façon, rien à foutre de cette prof. Elle porte des strings. Sinon, ce que je retrouve toujours, et que j'appelle les appréciations récurrentes, c'est « semble perdu », ou bien « semble ailleurs », ou pire, des trucs qui font pitié, style « redescendez sur terre ». La seule qui m'a écrit un truc sympa, c'est Madame Lemoine, la prof de dessin, enfin pardon, d'art plastique. Elle a marqué « des qualités plastiques ». Bon, ok, ça veut rien dire, mais c'est sympa quand même. Malgré mes qualités plastiques, une copine de maman a proposé que son fils vienne m'aider à faire mes devoirs. D'après elle, j'aurais plus que des bonnes notes parce que son fils Nabil, c'est un génie. J'ai remarqué que les mères arabes pensent souvent ça de leur fils. Mais la mère de Nabil, elle abuse. Elle croit que c'est l'Einstein des HLM et elle le dit à tout le monde. Lui se la pète parce qu'il porte des lunettes et qu'il s'y connaît à peu près en politique. Il doit savoir vaguement la différence entre la droite et la gauche. Heureusement, ma mère n'a pas tout à fait dit oui. Elle a utilisé le joker, Inch'Allah. Ça veut dire ni oui ni non. C'est « si Dieu veut », la vraie traduction. Mais ça, tu pourras jamais le savoir si Dieu il veut ou pas. Nabil, c'est un nul. Il a de l'acné et quand il était au collège, tous les jours ou presque, il se faisait racketter son goûter à la récré. Une grosse victime. Moi, je préfère les héros, comme dans les films, ceux qui font rêver les filles. Al Pacino, je suis sûr que personne ne pouvait lui tirer son goûter. Direct, il sort le semi-automatique, il t'explose le pouce, tu peux plus le sucer le soir avant de t'endormir. Terminé.
Allez, écoutez tous. Allez, écoutez tous. Allez, écoutez tous.
J'ai fait l'inventaire de mon aventure. En déduit qu'ici c'est se taire derrière leur devanture.
J'ai fait le tour de la question et les questions me tournent autour.
J'ai des tarés, un parcours d'embrouille. À 10 milieux du soleil, des tartares et des pourtours.
Et pourtant par terre, autant d'entraves, trop peu d'entre elles. Et entre temps, la plupart des autres qui s'entretuent.
Mon constat est béant et aberrant. Jeune bandit apeuré,
les yeux sous bandeau,
prêt à pleurer.
À les écouter, on est tous du mauvais côté.
Du mauvais quota,
persona non grata.
Venu juste pour les gratter.
Ingrat, écrit et raté.
Tadronois et raton.
Immigré à dénigrer, à sous le bâton.
Un baptême d'hématome.
Ayant pour thème amertume, blessure intime et chrysanthème.
Deux êtres, un titre.
Deuxième chapitre.
Spécial homicide.
Docteur en lettres, endoctrinant par litre.
J'accumule les frustrations, le stress et les sales pulsions à chaque pulsation. Dans toutes les situations, je suis coupable idéal. Le suspect usuel dans mon monde. La répression n'a rien de virtuel. On m'a demandé d'oublier qu'il y avait des champs de cam à Paname. Mais je suis blessé dans mon ego et séquestré dans le ghetto. Considéré comme un apprenti terroriste. Loin des lacorés. Divise par les journalistes à écouter ces brels. Mais c'est qu'elle serait irrémédiable. Et je ferais mieux de venir avec eux et des feux que prier le diable. Les gars comme moi marchent avec des pilules de cyanure. Et qui prend les racailles aussi commettent des bavures. Foutre la merde dans un monde où les rapaces portent des costards. Et où les pauvres connes peuvent devenir des pop stars. Je suis un cauchemar qui se propage comme une rumeur. Avec des textes qui font rock parce qu'ils parlent au peuple.
En grand 1, retiens bien, c'est le téléphone arabe. Et en putain de grand 2, je maîtrise chacune de mes syllabes. Ma perfection provient d'un complexe, c'est sûr. Faut croire que leur bavardage m'ont tué à l'usure. Donc je les en remercie, même si c'est leur sale haleine française malodorante que je fuis. Cette deux générations nourries à la chair de truie. Celle qui suit le bon vieux vent écorcheur d'ici même en territoire ennemi. À les écouter tous, ou à vouloir les ignorer, à les entendre tous. Leurs pensées atteignent n'importe quel abruti. Donc un être sans tourment qui n'est pas chez lui, ne vaut pas plus pour moi que l'un de ces stupides Gauri. Ce que t'appelles exotisme, je l'appelle terrorisme. Parce que ce foutu couplet que t'ingurgites comme un délice, c'est la merde la plus emmerdante et j'insiste.
Soit je rase les pelouses de leur parterre, ou alors je dégage par charter. Moi et mon sale caractère, paraît que je verse pas de larmes incolores quand c'est gore. Et qu'on arbore un étendard à la tête de mort. L'artillerie lourde est dans le coffre pour qu'on nous suspecte jusque dans nos strophes. Allez écouter tous, y aurait de la haine dans nos chromosomes. Si tu veux pas en être témoin, faut pas traîner dans notre zone.
Allez écouter tous, je devrais offrir ma fierté en pâture, être coté en bourse, augmenter la chair sur mon ossature. Là où le mensonge règne, les grands pontes s'activent autour des machines à rêve. Les moutons font plus que de la laine belle dans la cour, prennent de la graisse au corps pour passer au four. Trop sourd pour percevoir la hache sur la futoire. L'issue est simple, la fosse commune ou l'abattoir.
Allez écouter tous, quand l'Africain sort sa brousse, soit il est plein de rancune, soit il en branle pas une. Les poids, ils poussent la parano jusqu'à extraire de l'anthrax dans ce morceau. Hein, la double peine dort au coin de ma rue, alors qu'un faux passeport coûte la peau du cul. J'épouse cette funeste époque, les yeux ouverts, et garantis sur facture mes fournitures de guerre.
Allez écouter tous, des gravats remuent dans nos estomacs, ceux d'une sale race de rats qu'on cultive en espace clos. Ça fourmille, ça grouille et ça pille jusqu'aux entrailles de leur mère. Qu'on nous donne une vache à traire et on lui refile la peste. Espèce de tache crasse, vicieuse et perfide. Nos spermatozoïdes auraient frayé un chemin au cœur de leur campagne, aux confins des vagins de leurs filles et de leurs compagnes.
Allez écouter tous. Allez écouter tous. Allez écouter tous.
De retour en studio, 102.2 FM, Radio Canu, la plus rebelle des radios, la plus belle également. Vous avez pu entendre la première partie de la lecture de ce très joli roman de Faith Hagen, Kif Kif Demain. On reviendra dans le courant de l'année sur ce livre et nous le lirons jusqu'à la fin. La semaine prochaine, on se retrouve de 20h à 21h pour des lectures et un programme musical. Et vous pouvez, dans l'intervalle, si vous le souhaitez, nous contacter sur les réseaux sociaux j.aimepaslire ou nous écrire, pourquoi pas, j'aime pas lire. J'ai oublié l'adresse email évidemment, j'ai un bug de mémoire. Ça doit être j'aimepaslire.canu@gmail.com. On reviendra dessus, je vous confirmerai ça. Je vous souhaite une agréable soirée, chères auditrices et auditeurs. On se laisse une semaine avant de se retrouver. Et vous allez, j'en suis sûr, passer une très bonne semaine. À bientôt.